Eh bien oui, merci beaucoup. Donc la transition, oui, je vais partir d'une justification. C'est-à-dire si on parle de transition, c'est parce qu'on veut sortir de cheminer à partir d'un système qui a des problèmes. Bon, s'il n'y a pas de problème, on ne s'occupe pas de transition, on accélère et on fonce. Mais là, effectivement, on est face à un certain nombre de problèmes. Alors juste deux mots d'histoire très très succincte de l'agriculture. En fait, depuis l'origine de l'agriculture, il y a à peu près 12 000 ans, il y a eu pratiquement que trois grandes révolutions. Hein. C'est un secteur qui est économe en révolution. La première, ben, c'est la domestication des plantes et des animaux qui nous a fait sortir de ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire l'ensemble pêche, chasse, collecte, où on n'intervient pas sur le milieu. Et avec la domestication des plantes et des animaux, on invente l'agriculture. Donc ça s'est passé dans plusieurs foyers dans le monde, mais notamment le tout premier, sans doute, en Mésopotamie, il y a à peu près 10 à 12 000 ans. Voilà. Et à partir de cette découverte, au fond, on est resté à peu près dans le même système agricole, et l'augmentation de la production est venue essentiellement d'une extension du nombre d'exploitations agricoles qui restaient sous des formes assez voisines, jusqu'au moment où on a à peu près tout défriché, tout ce qui était possible pour produire, faire de l'agriculture. Et ça, chez nous, en Europe de l'Ouest, disons, ça se termine au XIIIe, XIVe siècle. Hein. Et là, on ne peut plus augmenter trop la production avec le modèle historique. Et en même temps, la démographie progresse. Donc, on arrive à une grosse crise au XIVe siècle. Et donc, on bute sur, en France, en tout cas, sur le plafond de 20 millions d'habitants. Voilà, l'agriculture n'arrivait pas à franchir vraiment ce plafond. Donc, on est pendant 2 siècles, crise, réduction de la démographie, et puis ça recommence, etc. Et on arrive à ce qu'on appelle la première révolution agricole, où, au fond, on bouge le plafond de production et de productivité par des choses assez simples, c'est-à-dire qu'on supprime les jachères, on fait des cultures de fourrage essentiellement, ou des prairies, et on associe mieux l'agriculture et l'élevage. Et l'élevage va apporter à la fois de l'énergie, de la matière organique, et de l'alimentation. Et là, on déplafonne et on permet à cette agriculture de nourrir pratiquement 40 millions de personnes. Voilà. Et donc, ça continue, ça reprend. Donc, c'est les siècles qui le 16e, 17e siècle, etc., on progresse et on va buter aussi sur des plafonds et on arrive vers le 19e siècle, en Angleterre d'abord, où on va vers une révolution agro-industrielle. Donc c'est considéré comme la deuxième révolution si on considère que la révolution néolithique, c'est la révolution zéro. Et cette révolution agro-industrielle, au fond, ça consiste à amener de l'extérieur de l'exploitation les éléments de la production, et notamment de la fertilité. Et donc, on introduit des engrais qui sont exogènes, je dirais, qui sont pour partie des produits issus enfin, miniers, et puis surtout de l'engrais azoté qui est un produit de synthèse. Voilà. Donc on a des produits chimiques qui rentrent, on a des produits de phyto- et zoosanitaires, aussi produits par la chimie essentiellement, et puis il y a de la mécanisation, puis de la motorisation, donc on rentre dans un système qui est devenu beaucoup plus productif, effectivement, et puis qui bénéficie donc de fertilité apportée et puis de protection des cultures et de la santé animale par des moyens qu'on n'avait pas avant et qui voilà, permettent d'avoir un système qui, effectivement, voilà, est infiniment plus productif. On avait des rendements qui tournaient, je sais pas quoi, en céréales, entre 12 et entre 7, 10, 12, 15 quintaux hectares, et puis on arrive quasiment des 100 quintaux hectares pour du blé dans le système agro-industriel. Et donc, c'est effectivement alors c'est surtout au XXe siècle et particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale que cette révolution agro-industrielle se produit. Et donc, il y a une partie, une étape qui est triomphante. Effectivement, on nourrit infiniment plus de monde. Et puis, on est sur une révolution qui est internationale, mais surtout dans les pays du Nord, parce que ça suppose une financiarisation de l'agriculture, etc., que certains autres pays n'en avaient pas les moyens. Et donc, tout va très bien jusqu'au moment où il y a un certain nombre d'interpellations qui se manifestent contre ce système qui est pourtant très efficace, mais de toutes parts, pour des raisons environnementales, pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques également, d'emploi, pour des raisons d'aménagement du territoire, on a des critiques qui se manifestent et qui deviennent suffisamment importantes et qui finissent par se coaguler dans finalement une sorte de multicrise. Ou parce que le système alimentaire émet à peu près 25 à 25% du oui.
Ça ne se déroule pas, les diapos ne passent pas.
Ah oui. Voilà. Je suis juste là, voilà. Et donc, ces différentes critiques, par exemple, 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre sortent du système alimentaire. Bon, c'est la biodiversité est gérée ou mal gérée essentiellement par l'agriculture. Des problèmes de santé, il y a un certain nombre de crises sont apparues. Des problèmes d'aménagement du territoire, puisque au fond, il y a une sorte de concentration qui se fait, notamment pour tous les maillons. Post-agricole. Et donc, ces critiques sont suffisamment importantes pour effectivement nécessiter qu'on envisage de résoudre tous ces problèmes. Voilà. Et donc, on est face à des débats qui sont citoyens, qui sont scientifiques, qui sont politiques et qui tous, finalement, aujourd'hui, considèrent qu'il faut qu'on modifie. Alors, comment on va faire de quoi s'agit-il? Quelles vont être les nouvelles étapes? C'est quoi cette transition? Alors, on pourrait se dire qu'on va régler les problèmes un par un, c'est-à-dire on va prendre la question du climat, les problèmes liés à la biodiversité, les difficultés liées aux questions sanitaires, etc. Mais comme on a affaire à un système, on risque en résolvant une crise environnementale. De pollution ou sur le climat, d'aggraver la question sociale, etc. Et donc, en fait, on s'est aperçu que la plupart de ces problèmes qui étaient posés à ce grand système agro-industriel et alimentaire, donc, au fond, avaient deux origines communes et que ces deux origines étaient liées aux fondamentaux de ce système agro-industriel, c'est-à-dire en fait à la mondialisation du système et à son agro-industrialisation, disons. C'est-à-dire au fait qu'effectivement, l'agriculture qui était une activité et l'alimentation qui était une activité relativement locale, tout d'un coup, se conçoit et se vit à l'échelle mondiale. Donc, c'est cette mondialisation et puis l'agro-industrialisation, c'est ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire l'entrée de la chimie, des énergies non renouvelables dans le système agricole. Et donc, au fond, et par rapport à. C'est pas tant, si vous voulez, la mondialisation, l'agro-industrialisation en tant que telle qui pose problème, de toute façon, on en est là, c'est l'excès, c'est-à-dire qu'effectivement. La mondialisation, qui était une petite chose, mais ça démarre vous voyez, c'est après le grand historien Braudel, voilà, au XIIIe siècle, qui était une petite chose qui était liée à la finance, aux échanges, etc., est devenue le tout de l'agriculture ou de l'alimentation, surtout de l'alimentation. Et puis, de même pour l'agro-industrialisation, qui n'était pas juste des petits ajouts, c'était vraiment le système lui-même qui était totalement agro-industrialisé. Et donc, par rapport à ces deux excès, je dirais, il faut donner des réponses. La première réponse à l'excès de mondialisation, c'est la reterritorialisation. Parce que dans l'histoire, la mondialisation s'est faite en partie contre les territoires. C'est-à-dire l'essentiel de l'économie était territorialisée dans les siècles anciens. Et progressivement, l'économie mondialisé, globalisé, etc., a finalement mangé tous ces, grignoté toutes ces économies territoriales pour ne laisser que très peu de choses aux économies territoriales. Donc c'était, au fond, ce qu'il faut qu'on opère, c'est un retour vers le territoire, qu'on ait des systèmes qui soient plus ancrés dans le territoire, qui se jouent à une échelle plus modeste. Ça ne veut pas dire que la mondialisation disparaît, mais ça veut dire qu'il faut rééquilibrer entre le mondialisé et le territorialisé. Donc, disons, le mot, c'est reterritorialiser le système alimentaire. Et puis, par rapport à l'excès d'agro-industrialisation, il faut retourner à la biologie, puisque beaucoup des problèmes qu'on a, notamment environnement et santé, sont des problèmes liés à l'excès de chimie. Voilà. Et donc, disons, bon, on peut prendre ce thème qui est large, qui est il faut qu'on opère, après cette révolution agro-industrielle, une révolution agro-écologique qui va effectivement remettre la biologie dans le cœur de l'agriculture. Alors, la révolution agroécologique, c'est quoi? Alors, c'est principalement trois choses, en tout cas, oui, deux ou trois. C'est premièrement de reproduire des services écologiques dans l'agriculture. Le système agro-industriel qui est fait beaucoup de monocultures, de chimie donc, et puis de monoculture et donc de phyto et de zoosanitaire, etc. Donc il faut retrouver dans l'agencement du système de production la production de services écologiques qui vont permettre de se passer des intrants qui sont nocifs pour la santé ou pour l'environnement, par exemple. Et donc, c'est quoi cette production de services écologiques? Bon, ça passe par la diversification des assolements et l'allongement des rotations, grosso modo. Ça passe par l'association entre agriculture et élevage, on retrouve la révolution précédente, et puis la foresterie, l'agroforesterie, ces trois éléments-là, il faut les rapprocher. Alors, réintroduire et renforcer la question des légumineuses, qui a la force de récupérer de l'azote atmosphérique, donc qui permet d'avoir une fertilisation azotée, qui peut remplacer en partie les engrais de synthèse. Il faut conserver des prairies naturelles, ne serait-ce que pour la biodiversité, mais aussi pour avoir des légumineuses. Et puis, il faut faire attention à la microfaune et à la microflore du sol, puisque le cœur de l'agriculture, c'est la fertilité. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire se donner les éléments de se passer. Vous voyez, on ne peut pas supprimer les intrants comme ça sans remplacer les fonctions qu'ils remplissent, mais il faut se donner la possibilité d'avoir des systèmes qui proposent la propre reproduction de leur fertilité, puisque évidemment, quand on produit, on extrait du sol un certain nombre d'éléments, et si on ne reproduit pas cette fertilité, évidemment, en quelques années, le sol s'appauvrit complètement. Alors, le deuxième élément, c'est ce que je viens de dire aussi, c'est la réduction, voire la suppression dans certains cas des intrants exogènes, chimiques notamment, et puis des énergies fossiles. On trouve ça dans l'agriculture, mais aussi dans tout le système évidemment alimentaire. Et puis le troisième élément, c'est de conserver ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques hors du système de production lui-même, par exemple des haies et des mares, notamment pour la biodiversité. Donc le caractère révolutionnaire, si vous voulez, par rapport à l'étape précédente agro-industrielle, il est dans ces éléments-là. C'est les éléments agricoles au sens agroécologique, et c'est aussi dans la reterritorialisation, c'est-à-dire dans une manière de raccourcir les circuits. C'est absolument nécessaire, notamment pour l'aménagement du territoire, parce qu'avec la mondialisation, les territoires ont perdu leur principal moteur de développement. Alors, ça n'empêche pas que, comme pour tous les systèmes alimentaires, il faut respecter un certain nombre de principes qui ne sont pas révolutionnaires en eux-mêmes, qui valent pour tous les systèmes, mais qui sont importants. c'est-à-dire que tout le monde puisse manger à sa faim et de manière décente, qu'on aille vers ce qu'on appelle les démocraties alimentaires, c'est-à-dire qu'on remaîtrise un peu les éléments du système alimentaire, qu'on puisse choisir ce qu'on souhaite manger, et voilà. Et puis qu'on respecte aussi la diversité des cultures alimentaires qui s'adaptent en général à la diversité des milieux et donc qui sont plus vertueuses de ce point de vue, donc des cultures qui sont vivantes ou voilà, et diverses. Alors comment cette révolution, cette transition agricole alimentaire peut s'opérer? Le système alimentaire, c'est très large. Vous voyez, à l'échelle du monde, pratiquement la moitié du travail humain est dans le système alimentaire. Ce qu'on disait tout à l'heure, 30% des émissions de gaz à effet de serre sortent du système alimentaire. Quelque chose comme, je crois, 80% des eaux douces sont utilisées par l'agriculture. Donc, on est sur un système et tout le monde est consommateur. Donc, on ne peut pas imaginer, vous voyez, une transformation qui soit purement vertical. Il faut, pour bouger ce système-là, que les acteurs du système alimentaire eux-mêmes bougent. Et donc, l'idée, c'est qu'au fond, cette transition, elle existe déjà aujourd'hui dans nos campagnes ou dans nos villes, peu importe, à travers des initiatives pionnières qui ont les caractéristiques de cette transition. Vous voyez, reterritorialisation, virage agroécologique, donc beaucoup déjà est engagé, mais c'est à relative petite échelle, et puis ce sont des pionniers, disons, voilà. Et donc, mais ces pionniers jouent un rôle fondamental parce qu'ils ouvrent des voies. Et donc, ces pionniers vont nous servir de référence et de base pour construire des pédagogies de la transition qui vont être des pédagogies des solutions, de l'exemplarité et puis de l'échange entre ces acteurs pionniers et puis des acteurs qu'ils sont moins, mais qui désirent également avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que le cœur de les acteurs les principaux et premiers de cette transition, c'est les acteurs du système alimentaire eux-mêmes. Alors bien sûr, les prescriptions scientifiques ont de la valeur, les politiques publiques ont de la valeur également, mais je dirais qu'ils sont plus là pour appuyer les acteurs premiers de cette transition et les dynamiques d'essaimage, de changement d'échelle qui vont permettre d'élargir l'échelle de cette transition au-delà de ces pionniers. Alors, par rapport, en deux mots, je pense que quelqu'un d'autre va approfondir ça, par rapport aux besoins d'agroécologie en Afrique de l'Ouest, je dirais que ça arrive dans l'histoire à des étapes différentes. Notre transition à nous, et notamment notre mutation agroécologique de l'agriculture, elle arrive comme une réponse à des éléments de crise. Vous voyez, on a besoin de sortir d'un système qui, au fond, a progressivement multiplié les inconvénients, même s'il a eu sa période extrêmement faste. L'agro-industrie, le modèle agro-industriel en Afrique de l'Ouest, il est peu existant. Il est très présent dans les discours ministériels, dans les prescriptions des grandes organisations internationales, mais en fait, l'agriculture africaine est d'abord une agriculture paysanne qui est marquée par son histoire. La révolution verte qui a été promue fortement dans les années 60, 70, 80, qui a eu effectivement un impact en Asie, par exemple, n'a pas vraiment fonctionné en Afrique parce que les conditions paysannes, notamment les risques à prendre parce qu'il y avait un changement dans des paysanneries où on était très limite au point de vue presque survie, voilà, donc la prise de risque est difficile, peu de capacité de crédit, voilà, toutes ces raisons font que finalement les producteurs africains ne sont pas vraiment rentrés dans cette prescription de révolution verte, qui était la réplique tropicale du modèle agro-industriel qui était en vigueur chez nous et très dominante. Et donc, voilà. Et donc, par contre, le véritable problème, c'est quand même la perte de la faible productivité des sols, parce que ce qui faisait la reproduction de la fertilité des sols, je parle là plutôt du Sahel, on peut avoir des raisonnements un peu semblables dans les, quand on descend vers les savanes ou l'agroforesterie, mais dans les agricultures sahéliennes qui étaient essentiellement deux cultures de céréales plus une longue jachère. On disait qu'il fallait avoir un recrue forestier, donc ça demandait une vingtaine d'années au moins, et qu'on cultivait 2 ans et puis on laissait 20 ans la terre se refaire. Avec la démographie, c'est plus possible. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de zones où il faut une culture continue. Et donc, il y a cette... Vous voyez, cette espèce de contradiction entre le fait qu'il faut produire plus et qu'il faudrait davantage de fertilité, et la fertilité n'a pas de mécanisme fort de renouvellement. Je veux dire, les engrais dans les grandes agricultures africaines, c'est très peu comme quantité. Il y a bien sûr des zones, je ne sais pas, où on fait de la canne à sucre, on fait éventuellement ou du palmier, je ne sais pas, où là on est dans un modèle effectivement qui est plus agro-industriel, où il y a beaucoup de pesticides par exemple, mais ce n'est pas le cas de l'agriculture en général. Et donc, ce qu'il faut, c'est évidemment aller vers un système qui tient compte de cette démographie, tient compte du fait qu'il faut augmenter la productivité. Et donc, l'agroécologie peut le permettre, effectivement, dans la mesure où on produit ces services agroécologiques, si on diversifie les assolements. On associe l'élevage et l'agriculture, ce qui n'est pas le cas toujours. Il y a des zones en Afrique où il y a peu d'élevage parce qu'il y a des maladies du sommeil, et puis là où il y a de l'élevage, souvent c'est des acteurs différents, les éleveurs et les agriculteurs. Il y a des cas, évidemment il y a de nombreux cas aussi où il y a une association de l'élevage et de l'agriculture, mais c'est pas la dominante. Voilà. Et donc, cette agroécologie-là, elle est nécessaire, son origine, c'est de rendre plus productive, notamment parce qu'il y a une meilleure fertilité des sols, le potentiel de production de terres africaines. Que nous, effectivement, l'agroécologie est fondée sur le fait qu'il faut sortir d'un système qui pose les problèmes qu'on a déjà cités. Voilà. Alors, deux mots, puisque je vois que l'heure tourne, là. Les crises contemporaines, celle du Covid notamment, et celle aujourd'hui de l'Ukraine, nous repose le problème de notre vulnérabilité et le problème, le Covid.
Attends,
vous voyez,
donc là, tu me dis, je prends les rouges.
Le Covid qui a supprimé les cantines, qui a supprimé en partie les marchés, qui a supprimé une partie des transports, etc., effectivement pose le problème de la résistance, la résilience en cas de crise, et la nécessité d'organiser des circuits plus courts, y compris pour les paysans, si vous voulez. Ils se sont retrouvés avec leur récolte qui arrivait, là, les asperges, les fraises, etc. Et puis plus les circuits d'approvisionnement classiques. Donc, il a fallu reconstituer en vitesse les circuits courts. Et puis aujourd'hui, effectivement, les deux des gros... producteurs, notamment de céréales, sont en guerre entre eux. Et donc, si vous voulez, la grande théorie libérale qui a aussi ses justifications, c'est-à-dire le système, c'est pas la peine de faire des stocks, ça coûte cher. Si vous avez un problème de déficit, vous pourrez importer comme vous le voulez de produits qui sont faits dans des régions où d'ailleurs c'est produit dans de meilleures conditions. Donc, pas de stock, du libre-échange et en fonction des avantages comparatifs. Ça va bien jusqu'au moment où effectivement, comme en 2018, où les pays qui étaient fortement exportateurs ne voulaient plus vendre parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir des prix favorables s'ils attendaient un peu, ou parce qu'ils voulaient préserver la nourriture de leur peuple. Ça a posé des tas de problèmes, notamment en Afrique. Il y a eu difficulté pour les, notamment pour les urbains à cette époque-là. Et donc, on est face à cette alternative, si vous voulez, ce système surtout poussé à l'extrême, et puis un système qui est plus consommation locale et souveraineté alimentaire. Et c'est vrai que pour des pays comme l'Afrique de l'Ouest, la clé, la survie de l'agriculture, c'est la consommation locale. Parce que, évidemment, c'est encore 60-65% de la population, l'agriculture. Évidemment, si les villes, voire les campagnes, sont nourries par des produits importés, ben, je veux dire, ce support économique de la majorité de la population disparaît. Et c'est ce qu'on observe un petit peu aujourd'hui. Donc, la consommation locale, c'est absolument fondamental. Et ça se fera aussi avec des politiques de souveraineté. Voilà. Bon, j'avais prévu de dire deux mots de quelques expériences agroécologiques assez remarquables. Je ne sais pas si je peux prendre encore une minute.
Oui, pas de souci.
Alors, bon, j'ai pris deux petits exemples français et puis un au Burkina. En France, Résolis, on travaille sur un échantillon donc d'initiatives de transition portées par des acteurs du système alimentaire, mais on travaille aussi sur les mesures de politique publique pro-transition. Pour ce qui est des acteurs, on travaille sur un échantillon aujourd'hui de 1200 initiatives, essentiellement en France. Donc, c'est difficile d'en choisir une ou deux. Et par exemple, vous avez dans le parc naturel régional du Perche une initiative qui s'appelle la création de marchés d'intérêts locaux, qui est une sorte de parallèle avec les marchés d'intérêts nationaux. C'est donc, au fond, le problème de, sans rentrer dans des circuits très, très larges, que les producteurs s'organisent pour assembler leurs produits, le vendre, faire des facturations mutualisées, organiser une logistique mutualisée, etc. Donc, c'est toute cette manière dont des groupes d'agriculteurs peuvent organiser, si vous voulez, l'approvisionnement de cantines, de petits marchés urbains, etc. Voilà. Deuxième exemple, si vous voulez, il y a beaucoup de choses autour des jardins qui peuvent être, dans le cas des, par exemple, des jardins de Cocagne, des jardins d'insertion pour des personnes qui sont exclues, en difficulté économique et sociale, qui vont produire dans ces lieux. En même temps, ils vont apprendre un métier de maraîcher. Et puis, en même temps, ils vont produire, et ça peut partir vers des circuits, des économies sociales ou solidaires. Mais on retrouve aussi le jardin comme lieu pédagogique pour les jardins scolaires, comme jardin aussi pour créer du lien social, le jardin partagé, etc. Le jardin reprend beaucoup d'intérêt. C'est là où on apprend aussi le cycle de vie, hein, ce que les enfants souvent aujourd'hui vivent. Et puis le dernier exemple au Burkina, j'ai suivi un peu une expérience extraordinaire, qui est une expérience latrine, production d'engrais agroécologie, hein, latrine à partir de l'urine, il faut à peu près 3 semaines pour supprimer les pathogènes et créer un engrais azoté qui a une haute valeur. Et puis avec les FSS, donc il faut des latrines un peu spécialisées, vous créez des engrais, là il faut 5-6 mois pour en faire de la poudre et aussi qui est dégagée de ces pathogènes. Et puis tout ça sert d'engrais organique. Alors d'habitude on a parlé des animaux, mais ça pourrait être humain. Il y a au Burkina, dans la zone que j'ai visitée, une cinquantaine de villages et avec des latrines familiales qui procèdent, c'est simple comme procédure, comme processus, et qui ont des rendements qui sont effectivement dignes d'une agroécologie plus que digne d'une agriculture plus que moderne. Enfin, voilà. Et donc, il faut chercher comment on peut substituer aux engrais chimiques des engrais organiques, biologiques. Il faut diversifier pour que les pestes ne se multiplient pas d'une année sur l'autre. Oui, à partir du moment où vous sortez des monocultures, évidemment, ça déstabilise les pestes. Elles n'ont pas le temps de se reconstituer. Voilà. Et donc, il y a des milliers d'expériences. C'est sur cette base-là qu'on va essayer de renforcer les dynamiques de transition agricole et alimentaire. Voilà, je vous remercie. se donne.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci Henri. Alors, merci pour cette présentation qui nous a fait un bon panorama. Alors, on va peut-être passer aux questions que nous avions déjà recueillies lors de l'inscription et puis après prendre quelques questions du public.
Alors, Amandine, je crois qu'on a déjà donc recueilli quelques-unes. Est-ce que, Amandine, tu veux commencer à poser des questions ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a reçu quelques questions en amont, et notamment sur comment est-ce qu'on peut articuler du coup la mondialisation et la souveraineté alimentaire, l'indépendance, l'autonomie. Est-ce que c'est possible d'avoir une reterritorialisation, donc moins de mondialisation excessive, sans avoir des problèmes de pénurie ou de précarité alimentaire à court terme ?
On ne vous entend pas, monsieur Bruno.
Voilà. Oui, alors deux choses. La première, c'est en termes de savoir si on aura assez à manger si on passe à cette agriculture nouvelle. La première chose, c'est de dire que ça fait 150 ans qu'on fait vivre le secteur agro-industriel par la recherche, les politiques publiques, tout le monde est aligné sur les acteurs et les stratégies économiques également. Donc, c'est assez logique qu'on ait énormément progressé dans cette voie-là. Et il faut savoir que ces principes d'agroécologie, leur mise en pratique, c'est relativement récent. Hein. Je veux dire, par exemple, l'agriculture biologique, elle existe depuis effectivement peut-être 50 ans, mais dans les milieux académiques, on en rigolait. Je veux dire, c'était un truc de hippie, vous voyez. Et donc, c'est normal aussi que. Il n'y a pas eu assez de travail de recherche sur dans ce domaine-là. Ça, c'est une première remarque. Après, est-ce que c'est possible dans la compétition, ne serait-ce que pour les marchés, entre un système qui est mondialisé, qui est très dominant, qui a déjà choisi ses marchés, les ressources qui rentrent dans les systèmes de production, etc., les meilleures compétences humaines, etc. Est-ce que cette agriculture, ce secteur très puissant, peut laisser de la place à des économies territorialisées ? Je crois que ça se passe, c'est les politiques publiques qui vont faire la différence. Hein. Je pense que quand on dit qu'il y a un problème d'aménagement du territoire, il y a un problème de santé, il y a un problème d'environnement, au fond, les collectivités territoriales comprennent très bien le langage de la transition. Je crois que le rééquilibrage peut tout à fait se faire. Il ne faut pas tout de suite dire on va remplacer l'agriculture mondiale globalisée dans 100% par du 100% territorialisé, mais vous voyez, c'est un équilibre entre deux composantes à l'intérieur d'un grand système alimentaire. Et donc, je crois qu'effectivement, l'heure est aujourd'hui relativement favorable pour cette transformation. Et donc, il faut effectivement que les politiques publiques protègent l'espace de ces économies territorialisées, d'où les politiques de souveraineté alimentaire, d'où ce qu'on a fait en Europe avec la PAC, en tout cas au moins au début de celle-ci, c'est-à-dire de considérer qu'on avait dans l'espace européen, on créait un espace favorable au développement des agricultures nationales. Voilà, donc je pense que c'est une bagarre entre deux systèmes. Hein, mais la transition ne sera pas uniquement la victoire du trait territorialisé contre tout le reste. C'est y compris dans je parle de l'agriculture, vous voyez, dans l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle a des axes d'évolution aussi à opérer. Vous voyez, c'est pas juste, elle n'a plus qu'à mourir. C'est effectivement, ça se retrouve dans l'évolution des intrants, dans l'évolution des assolements, des rotations, la place d'une rediversification avec élevage, culture, un peu d'agro et foresterie, etc.
Est-ce qu'on a éventuellement des moyens de mesurer cet équilibre, de savoir si on a atteint cet équilibre ? Et est-ce qu'on a un modèle idéal à atteindre éventuellement entre interdépendance et autonomie ? Et puis, En complément à ce que vous dites, on a reçu une question dans le chat. Est-ce que les politiques doivent éventuellement voter des lois qui interdisent la vente, la commercialisation de certains produits pour qu'on atteigne un rééquilibre et qu'on permette une reterritorialisation de l'agriculture?
Oui. Alors, juste un point aussi, c'est que les échelles, vous voyez, sont mobiles, c'est-à-dire ce qui est mangé en produits frais, par exemple les légumes, vous voyez, les salades, les tomates, et ce qui est céréales, par exemple, ça n'a pas la même capacité à se conserver, à se transporter. Et donc, traditionnellement, il y avait autour des villes des ceintures vertes, vous voyez, ça c'était beaucoup du maraîchage. Mais ça reste quand même un peu vrai, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi, même dans les. Aujourd'hui, dans les villes africaines, c'est qu'il y a quand même des zones maraîchères autour des zones de population dense. Par contre, les céréales, effectivement, vous pouvez les transporter d'un continent à l'autre, et puis ça se conserve, toute l'année, voire plusieurs années. Donc ça c'est une remarque. Donc il faut aussi jouer avec ça. Je veux dire, vous voyez, c'est pas un modèle fermé contre un modèle complètement ouvert. Ça dépend des productions, etc. Est-ce qu'on doit interdire des produits? Oui, on interdit des produits. Il y a des produits, le DTT, il a fallu 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas, entre le moment où on a perçu qu'il y avait des problèmes sur le DTT et puis le moment où ça a été vraiment interdit, il s'est passé un temps fou parce que d'abord les agriculteurs ont l'habitude de régler des problèmes par des produits chimiques. Par exemple, c'est le cas des herbicides aujourd'hui. Quand même, le glyphosate, et Roundup, tout ça, c'est une grosse partie des herbicides, et c'est quand même assez difficile de faire des céréales sans maîtriser les mauvaises herbes, les adventices. Et voilà. Mais il y a un moment donné, la règle sanitaire va dominer. Alors, on a des allers-retours avec les néonicotinidés, avec les perturbateurs endocriniens, mais il y a un moment donné où la règle de santé, je veux dire, devient impérative. Donc, ça existe, ça se fait, on interdit, mais évidemment, pour que ça marche vraiment, il faut qu'il y ait des alternatives pour que les producteurs puissent pouvoir produire. Mais en tout cas, l'exemple de l'agriculture biologique montre qu'on peut faire de la. Et puis, toute l'histoire de l'agriculture, on a fait de l'agriculture avant les pesticides. Et donc, on montre que c'est possible, mais ça suppose, c'est peut-être là où la recherche a un rôle très important à jouer. C'est ces problèmes de trouver dans les intrants des alternatives qui font qu'on ne laisse pas les paysans sans moyens de travail.
Je crois que Amandine, lorsqu'elle parlait de produits, dans la question, il y avait aussi les produits alimentaires, l'importation. Est-ce qu'il faudrait interdire l'importation de certains produits alimentaires? De certains produits et certains produits en dehors des périodes de production, en fait, disons des fraises en hiver, etc.
Oui, alors si vous voulez, vous avez des tas de cas où, par exemple, au Sénégal, c'est le cas aussi sur la pomme de terre en Guinée, etc., où pendant la production locale, les importations sont interdites. Hein. Par exemple, sur l'oignon au Sénégal, je crois. Sur la pomme de terre en Guinée, etc. Alors, d'ailleurs, c'est quand vous êtes à Dakar, si vous avez un hôtel qui est sur les rues qui vont du port au marché, aux principaux marchés de stockage, d'entreposage, un mois avant la fin des importations, les importations sont élargies et comme ça les commerçants ont des stocks et ils ont des oignons moins chers que les oignons produits localement. Donc il y a des tas de problèmes, hein. Dès qu'on interdit les choses, évidemment il y a toujours de la contrebande, il y a toujours des passagers clandestins, etc. Mais c'est effectivement nécessaire de. Alors, en Europe, chez nous, aujourd'hui, c'est une vieille revendication, ça existait avant, mais on avait perdu. On essaye de réintroduire aux frontières de l'Europe des taxes qui compense le fait que nos paysans sont beaucoup plus sujets à des contraintes environnementales des règles sociales, etc., que dans d'autres pays. Et donc, les taxes servent à équilibrer, à remettre une concurrence juste entre des produits importés et des produits locaux. Donc ça, c'est, ça fait partie des... je ne sais pas si avec la crise ukrainienne, on va changer, mais ça fait partie de ce qui devait être négocié ces mois ou ces années au niveau européen. Mais c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en compétition des agricultures où les gens ne payent pas le travail, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'impôt pour foncier, il n'y a pas de contraintes environnementales, on peut défricher n'importe comment, et puis des agricultures qui sont au contraire obligées de respecter des règles environnementales, sociales, donc ce n'est pas possible. Et de même, c'est difficile de mettre en compétition des agriculteurs du Sahel qui n'ont pas forcément même de l'énergie animale et donc qui vont produire sur un hectare avec une daba, des dabas, une famille une daba, et plusieurs dabas, avec des agricultures où il y a 4000 hectares et qui n'ont pas aucun souci environnementaux et autres. La concurrence, elle n'est pas possible. Alors, si on veut garder une agriculture dans un pays, il faut protéger. Le droit commercial ne devrait pas s'imposer au simple droit d'avoir une agriculture dans le pays, et quand elle fait vivre 65% de la population, particulièrement.
Rachid Benarkir, une question ? Rachid.
Oui, pardon, j'essaie de prendre la parole. Oui, non, pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire et très, très rapidement, en fait, par rapport à la question « Peut-on interdire l'importation d'un produit ?» Et juste pour rebondir sur ce que vient de dire Henri Wouderfeuil, c'est que, en fait, les règles du commerce international sont très claires. Hein, sur, je citerai l'accord sanitaire-phytosanitaire de l'OMC, donc ce qu'on appelle l'accord SPS, qui dit une chose très simple hein, dans son article 2, qui dit que tout pays a la possibilité de protéger la santé de sa population, la santé publique, la santé animale, la santé des végétaux et la protection de son environnement par rapport à la disparition de toute espèce végétale qui pourrait envahir son environnement, à condition que ça ne soit pas une entrave non nécessaire ou abusive du commerce international. Donc c'est très clair, hein, on peut interdire un certain nombre de traitements, que ce soit des traitements même sanitaires, des végétaux, etc. Et il y a des normes internationales, ça. Il y a aussi des normes nationales qui sont négociées bilatéralement. En tout cas, c'est tout à fait possible, mais il faut que ça soit fondé sur des bases scientifiques. Mais faut pas, parce qu'il ne faut pas une obstruction abusive du commerce international. Et ça, c'est important à rappeler aussi, je pense.
Mais c'est insuffisant quand même, parce que c'est vrai que sur la santé, oui, la santé, il y a une réelle possibilité de, quand il y a un risque sanitaire, de se protéger. Après, effectivement, il faut le justifier scientifiquement, mais on est tout de suite accusé de protectionnisme, et ça, c'est évidemment l'injure la plus grande faite aux producteurs par l'OMC, qui est une structure, c'est pas l'OMC elle-même que le collectif des représentants des pays qui finalement s'entendent sur ces règles quand même d'avoir un commerce très libre. Mais oui, on peut utiliser ces règles. Et puis quand on est les petits pays, vous voyez, par exemple l'histoire de bloquer les oignons à une certaine période, je pense que ça ne passerait pas si c'était des grands pays. Enfin, je veux dire, on réagirait. Voilà. Enfin bon, je pense que c'est quand même, si vous voulez, il y a quand même un travail à faire à l'OMC très important d'évolution pour donner un vrai droit aux agricultures de se développer face à un droit commercial. D'ailleurs, si vous voulez, les contraintes environnementales, le droit du travail, etc., ne sont pas prises en compte dans les règles de l'OMC. Donc, l'OMC a une juridiction qui permet sur le règlement des différends, C'est des pays qui se sentent victimes, qui donc portent plainte et qui... voilà, après, il y a une sorte de juridiction intérieure, mais les éléments d'environnement et tout ça ne sont pas suffisamment pris en compte, en tout cas.
Il y a, par exemple, une proposition d'exclure les produits agricoles des accords de l'OMC. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure urgente à adopter, et quelles seraient d'autres mesures urgentes que vous pensez qui sont nécessaires politiquement, économiquement, pour ne pas aboutir à un système où les produits de qualité seraient accessibles uniquement aux plus riches et les produits de moindre qualité seraient, avec des risques sanitaires, seraient laissés aux pauvres?
Oui, si vous voulez, la rentrée de l'agriculture dans l'OMC, c'est quelque chose de, enfin, dans les accords du GATT d'abord, c'est quelque chose de récent. Hein. L'agriculture n'était pas sous GATT jusqu'aux accords de l'Uruguay Round, donc c'est ce qui est juste, qui a juste précédé la création de l'OMC en 95, je crois, 1995. Et à ce moment-là, on a considéré que l'agriculture était un secteur comme les autres et devait avoir les mêmes règles. Mais il y a beaucoup de raisons qui militent pour dire que, au fond, la base des accords de l'OMC, c'est-à-dire le libre-échange et puis le problème des stocks et tout ça, sont pas adaptés au marché agricole. Avant, avant l'OMC et avant l'OMC en fait, parce que le Uruguay Round a effectivement proposé l'entrée de l'agriculture, mais c'était la négociation. Donc ça s'est fait avec l'OMC en fait. Mais il y avait des accords de produits, donc on était. La question c'était de réguler ces marchés pour pas avoir des prix qui soient ultra volatiles, et donc il faut la possibilité de réguler, c'est-à-dire quand il y avait trop d'offres, on supprimait, quand il n'y en avait pas assez, on rajoutait, donc effectivement ça reposait aussi sur des stocks. Tout ce mécanisme-là qui préexistait, qui avait des vices mais qui était quand même pas mal, ça a disparu. Donc la manière de régler il faut qu'il y ait du commerce international, parce qu'il y a des pays qui sont en déficit structurel, et il y en a d'autres qui peuvent surproduire, donc c'est pas une mauvaise chose évidemment, mais il faut pas que le commerce tue les agricultures des pays qui peuvent en avoir une et qui peuvent nourrir leur population. Donc ces accords de produits, finalement, c'était pas mal. Jouer sur les stocks, hein, les grands libéraux vous disent, mais les stocks, c'est la spéculation. Il faut laisser les marchés, ils règlent les problèmes tout seuls, etc. Et quand il y a des problèmes, ils expliquent que c'est parce qu'il n'y a pas assez de libéralisation. Mais les stocks, c'est aussi une manière quand même de prévoir l'avenir d'abord, et puis de réguler ces marchés qui sont très sensibles, parce que si vous voulez, la demande est rigide, donc la demande ne va pas suivre des offres qui varient beaucoup. Si vous avez une surproduction, ça fait écouler vos prix. Avec 5% de la production, vous pouvez faire effondrer les cours des produits. Et si en plus vous n'avez pas aux frontières des pays des amortisseurs de ces problèmes du marché international, ça se répercute jusqu'au petit marché du village. Donc c'est un vrai problème, cette histoire de régulation des marchés, notamment du marché mondial, quoi.
Parce que justement, il n'y a pas un enjeu d'organisation de la chaîne de valeur des agriculteurs jusqu'aux chercheurs, jusqu'à la commercialisation, qui passe éventuellement par le conseil.
Il y a un besoin d'organisation de la chaîne de valeur, et surtout au niveau des producteurs. C'est-à-dire que il faut pas qu'il il faut il faut se débrouiller. Alors la question des quotas n'est pas une mauvaise question, hein. Il faut se débrouiller pour éviter d'avoir sur le marché des surplus qui effondrent vos prix. Et donc, alors, les gouvernements, c'est des fonctions historiques, tout ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui sont juste à inventer maintenant. Mais les gouvernements peuvent effectivement réguler à travers des fourchettes de prix, vous voyez, un plafond, un plancher, etc. Mais pour que ça marche bien, il faut effectivement que les marchés soient un peu assainis, donc ils peuvent organiser eux-mêmes des stocks. Le problème, ce qui s'est passé, ce que faisait un peu la Commission européenne dans les années 80, un peu avant, mais on s'est retrouvé avec des stocks très, très considérables puisqu'on était en système de surproduction structurelle. Et donc, on a eu des stocks de beurre extraordinaires. Donc, il a fallu. Et donc, derrière ce mécanisme des stocks, on a inventé les quotas laitiers, par exemple. Bon, et donc, ça se répercutait jusqu'aux exploitations qui avaient leurs propres quotas. Alors, on a jugé que c'était aussi une manière de truquer les marchés. Voilà. Mais il n'y a pas de. Il faut, vous voyez, c'est comme les voitures ou n'importe quel produit, sauf que dans l'agriculture, c'est plus compliqué parce que c'est des produits périssables, mais vous ne pouvez pas mettre sur le marché des quantités de trucs et tout d'un coup, vous avez des stocks qui sont ingérables, qui coûtent cher. Et donc, il faut ajuster offre et demande avec des offres qui sont, à cause du climat, à cause de certaines maladies, à cause de je ne sais pas quoi, sont variables, sont volatiles. Donc, il faut des mécanismes de stabilisation. Alors, les chaînes de valeur, oui, alors il y a les paysans, mais il y a effectivement, dans le jeu, il y a le rôle des commerçants, le rôle des transformateurs, le rôle des distributeurs, etc. Mais c'est souvent, si vous voulez, sur le paysan, finalement, que se répercute toute l'instabilité des marchés mondiaux, ou des marchés, voilà.